Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment mettre fin aux violences contre des policiers en France? Nous allons en débattre avec nos invités dans quelques instants. Mais retrouvons d'abord celui de décryptage à Bamako, au Mali.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dembélé Salimatou Dao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes trésorière générale de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali à Bamako. Ce 12 mai est Journée internationale des infirmières et infirmiers. Quel est pour vous le sens de cette célébration, madame?
Bon, le sens de cette célébration, c'est une façon de valoriser la profession infirmière, de rappeler aux infirmiers qu'il y a une journée, parce qu'il n'y a pas longtemps, les infirmiers ne savaient pas qu'il y avait une journée dédiée à leur nom. Donc, chaque année, au Mali, on fête cette journée, le 12 mai, qui nous permet de valoriser la profession, qui nous permet de nous organiser et de projeter des objectifs dans le futur.
Que représente l'infirmier ou l'infirmière dans un hôpital ou centre de santé dans votre pays?
Dans notre pays, l'infirmier, c'est le tout. Ça commence par l'infirmier et ça se termine par l'infirmier. C'est l'infirmier qui est au chevet du malade et des accompagnants. C'est l'infirmier qui est tout en un mot.
Quand vous dites tout, concrètement, que fait-il au quotidien?
Au quotidien, l'infirmier, c'est lui qui est là à se charger du malade, à se charger des prescriptions, avec l'accueil. Parce que l'accueil, ça compte beaucoup dans la prise en charge du malade. Ça prend au moins 50% de la maladie. Le malade a beaucoup plus confiance à l'infirmier parce que c'est l'infirmier qui l'accueille, c'est l'infirmier qui le rassure. Même pour le traitement, c'est l'infirmier qui le rassure. Les accompagnants, c'est-à-dire les parents du malade, ne connaissent que l'infirmier en un mot.
Quel défi êtes-vous appelé au quotidien à relever dans l'exercice de votre travail?
Là, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Il y a beaucoup de difficultés parce que souvent, il y a des incompréhensions. Souvent, nous sommes dans un pays pauvre avec le coût du traitement. Donc, c'est les parents qui se défoulent sur l'infirmier parce que, en un mot, c'est l'infirmier qui est à leur portée. Donc, on a plein de difficultés, mais on se fait avec.
Et en termes de conditions de travail, est-ce que tout va bien?
Bon, on ne peut pas dire que tout va bien, mais on se débrouille. Il y a toujours des problèmes, il y a des problèmes d'effectivité, il y a des problèmes de matériel. Mais on adapte à la situation.
Quels sont les types de matériel qui vous manquent très souvent pour bien faire votre travail?
Avec les prescriptions, souvent on a des problèmes pour l'acquisition des produits avec les parents parce qu'il y a un problème de moyens. Souvent, au niveau même du centre, il y a des matériels qui manquent, soit au niveau de la pharmacie, soit au niveau du service. Des matériels comme des produits qu'on a besoin tout de suite pour le malade, des matériels comme pour les soins du malade. Voilà.
Et au niveau des conditions salariales, est-ce que vous êtes satisfait?
Bon, pas totalement satisfait, on peut toujours améliorer. Moi, je pense que vraiment, il faut vraiment améliorer. Il faut mettre les infirmières dans les conditions pour mieux travailler. On peut toujours améliorer leur salaire. On attend toujours des autorités. Bon, en matière de salaire, c'est un gris qui est national. Donc, s'il y a changement, c'est au niveau national. Les salaires des infirmières, bon, vu leur travail, ça doit être augmenté.
Vous disiez aussi qu'au niveau des effectifs, il manque du personnel.
Je parle de façon générale, sinon là où je travaille concrètement, moi j'ai suffisamment de personnel. Mais il y a des services où il y a manque d'infirmiers. Par exemple, pour un service, tu peux trouver qu'il y a au moins 3 ou 4 infirmiers spécialistes pour combien de malades, pour la prise en charge de combien de malades. Donc, mais là où je travaille, il y a suffisamment d'infirmiers pour la prise en charge.
Comment la crise sécuritaire que traverse le Mali affecte-t-elle votre travail et comment vivez-vous la situation?
On a eu des collègues qui ont perdu la vie dans cette situation. Bon, c'est tout le monde qui est dans l'insécurité, comme les infirmiers. Et ça, parce que nous, on est appelés à travailler partout. Donc ça affecte beaucoup notre travail. Et on a perdu des collègues comme ça.
Vous avez perdu combien de collègues, par exemple, l'année dernière et dans quelle partie du Mali?
Bon, l'année dernière, on a perdu, je ne connais pas totalement les chiffres, mais on a perdu à peu près 2 dans la région de Koutchala et Sigasso.
Les infirmiers et infirmières refusent d'être déployés dans les hôpitaux où la sécurité est problématique?
Bon, à ma connaissance, je n'ai pas appris que les infirmiers ont refusé d'aller où que ce soit. Le message fort, c'est de persévérer et de continuer à travailler parce que c'est seul le travail paye.
Dembélé Salimatou Dao, merci beaucoup.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie.
Vous êtes trésorière générale de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali, à Bamako.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Merci de nous rejoindre. Il est 18h13 à Paris. Nous allons parler ce soir des violences contre des policiers en France. Comment en finir avec de tels incidents? Et c'est avec 3 invités qui sont en ligne. D'abord, Rocco Contento, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du syndicat SGP Police en Île-de-France. Merci à vous d'être avec nous. Merci également à vous, Mohamed Gassama. Bonsoir.
Madame Ndiacha.
Vous êtes référent de LRM, La République en Marche du 20e arrondissement à Paris. Et Abel Mbouyi est également avec nous, président de la plateforme citoyenne FR Tous Uniques, Tous Unis et auteur du livre « Qu'est-ce qu'être français ?» Monsieur Mbouyi, bonsoir.
Bonsoir Liliane.
Merci à vous messieurs de participer à ce débat. On va d'abord dire un mot sur les causes de ces violences qui semblent s'accentuer contre des policiers et surtout attribuées aux jeunes à peine sortis de l'adolescence, monsieur Contento. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les syndicats de police. Pour le cas d'Avignon, le suspect principal et tireur présumé est âgé à peine de 19 ans, monsieur Contento.
Tout à fait. Cet individu a 19 ans et à 19 ans, il a tué froidement un policier de balles. Donc on constate, nous, malheureusement, depuis quelques années, d'une manière générale, une explosion de la délinquance des mineurs. Ça, c'est un fait avéré, voire de très jeunes mineurs, puisque, vous savez, les agressions contre les policiers sont devenues malheureusement monnaie courante. Je vous cite un chiffre. Depuis le premier trimestre de cette année, vous avez 727 policiers qui ont été blessés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et il n'est pas rare que lors de guet-apens, parce que c'est souvent le cas, nous sommes confrontés à une délinquance des mineurs, mais parfois des très jeunes mineurs de 12, 13 ou 14 ans.
Et merci à vous. Je m'adresse maintenant à Monsieur Gassama. Est-ce que vous avez partagé et compris l'émotion qu'a suscité le meurtre de ce policier? Mais avant, il y a aussi eu la mort de cette agente administrative à Rambouillet.
Bien sûr, il y a Éric Masson qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Et bien sûr, je partage l'émotion de l'ensemble des Français face à ce meurtre, parce que moi, je le redis à chaque fois dans le 20e arrondissement où je suis effectivement référent de La République En Marche, le soutien aux policiers, il doit être inconditionnel. Ils sont là pour préserver notre liberté, c'est-à-dire la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Et ça, c'est un point essentiel dans l'action qu'ils mènent. Et c'est pour ça que ce soutien, pour moi, il doit être indéfectible. Oui, Stéphanie Monfermin a été effectivement aussi tuée dans des conditions tragiques. Et bien sûr, l'émotion est partagée. Et je pense que les mots du Premier ministre ont été forts et de l'ensemble du gouvernement.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlera au-delà des mots. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées lundi par le Premier ministre à l'issue de sa rencontre avec des syndicats de police. Abel Mbouyi, Monsieur Contento parlait tout à l'heure d'explosion de la délinquance des mineurs. Monsieur Gassama ajoute pas de sécurité et pas de liberté. Mais quand on examine les causes de cette situation, vous vous dites, elles sont dues à quoi? À quoi attribuer toute cette violence dont on parle ces dernières années?
Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de basculer dans une société en total délitement. Nous voyons que le rapport à l'autorité est vraiment quelque chose qui est en train d'être galvaudé. Et à mon tour aussi, j'aimerais exprimer ma pensée à toutes les forces de l'ordre, vraiment mon soutien indéfectible, parce que j'aimerais juste rappeler en parenthèse que quand même la police, c'est plus de 3 millions d'interventions par an, une intervention toutes les 10 secondes, 24 heures sur 24, et que sur ces 3 millions d'interventions, il y a moins de 0,5% de signalement. Donc on a quand même une police qui fait extrêmement bien son travail avec des personnes qui sont dévouées, et un policier ne se lève pas le matin en se disant qu'il va faire des bavures. Au contraire, le policier, il se demande s'il va rentrer le soir chez lui. Nous sommes dans une société de plus en plus violente, avec dans certains endroits, malheureusement, c'est important de le dire, nous avons une jeunesse qui est en perte de repère totale, qui est totalement marginalisée.
Oui, le constat était fait. On voit les conséquences aujourd'hui de tout ce que vous décrivez. La question était de savoir sur quoi faut-il pointer le doigt? Qu'est-ce qu'on peut avancer comme raison principale à cette situation que vous décriez?
La problématique de l'autorité, en ce qui concerne la jeunesse, on ne peut pas s'empêcher de parler des parents, l'autorité parentale, puisqu'on parlait de la jeunesse et de la précocité de certaines personnes qui n'hésitent plus à passer par des actes criminels. La notion de l'autorité, nous voyons que tout ce qui représente l'autorité dans notre nation est bafoué. Ça commence par les parents, puis l'école, puis la police, même les pompiers, les médecins ou autres. Donc il est très important que les parents, mais aussi tout ce qui est acteurs de terrain, les associatifs, les médiateurs ou autres, puissent vraiment redoubler d'efforts pour...
À ce sujet, justement, permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Mbouyi. Les éducateurs que nous avons eu à entendre en d'autres circonstances et dans d'autres émissions sur un thème similaire, expliquent que cette situation est aussi due au fait que les associations qui avant essayé de travailler au niveau de la prévention pour empêcher que les jeunes passent à l'acte ne sont plus financées, d'autres non plus n'existent plus du tout faute de soutien de l'État.
Oui, c'est une raison qui peut être valable, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la situation. Il reste encore beaucoup d'associations et beaucoup de médiateurs sur le terrain. On peut plus parler du fait de l'erreur de Nicolas Sarkozy d'avoir supprimé un certain nombre de postes de policiers. Ça, c'est un vrai préjudice, avoir supprimé la police de proximité. Parce qu'aujourd'hui, on remarquait une chose, c'est quoi? Avant, le jeune délinquant, lorsqu'il voyait la police, il prenait la fuite. Aujourd'hui, certains jeunes, lorsqu'ils voient la police, ils vont à l'affrontement. Et si on continue sur ce chemin-là, on risque d'arriver à des véritables...
Et cela, vous pensez que c'est le Nicolas Sarkozy qui en est responsable?
En tout cas, il a sa part de responsabilité. Je ne vais pas dire que c'est de sa faute si toute cette situation est dans cet état aujourd'hui, parce que c'est un délitement en fait qui date de plusieurs dizaines d'années. Ça fait 40 ans que l'on dit la même chose et on voit que ça ne s'améliore pas. Mais lorsque vous désarmez la police sur le terrain en mettant moins d'effectifs et sachant qu'il faut voir leurs conditions de travail, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un commissariat ou autre, c'est vraiment des conditions de travail très difficiles. Les salaires aussi, ce n'est pas tout à fait ça pour des personnes qui se donnent nuit et jour au péril de leur vie pour nous. Merci. Je pense que c'est un corps de métier qui devrait être plus valorisé, mais c'est une responsabilité collective. Il faut restaurer l'autorité, ça commence par l'autorité parentale à la maison et ensuite l'autorité de l'État.
Merci. Monsieur Contento, au rang des causes, le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, a reconnu qu'il y a aussi un problème d'inégalité sociale, de manque de mixité sociale qui pourrait expliquer cette violence, cette montée de violence contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, c'est un ensemble de choses. On constate aujourd'hui un délitement de l'autorité de l'État, jamais inégalé jusqu'à présent. Vous savez la différence, moi j'ai 28 ans de police nationale. Il y a 28 ans, quand j'ai commencé mon métier, les délinquants, on était attaqués par rapport à ce que nous faisions. Aujourd'hui, on est attaqué par rapport à ce que nous sommes. La différence, elle est là. Donc évidemment, on demande aujourd'hui aux policiers d'être les pompiers du mal-être social. Mais vous savez, la clé de la restauration de l'autorité de l'État, comme le disait monsieur précédemment, n'appartient pas qu'à l'institution police nationale. Nous, nous réprimons les crimes et les délits. Nous faisons aussi beaucoup de prévention. Je vous rappelle que nous répondons à des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'appels police-secours tous les jours. Et malheureusement, il y a toute une frange de la population, pas la meilleure et heureusement pas la plus nombreuse, qui est en totale rupture par rapport à l'autorité de l'État. Mais ça passe pas que pour les policiers, c'est aussi valable pour les enseignants, pour les professeurs, aussi pour les élus. On constate une augmentation des agressions des élus. Et aussi, on en parlera peut-être après, sur la
justice. Des sièges de leur parti aussi.
Comment ?
Des sièges de certains bâtiments appartenant à certains responsables politiques.
Oui, aussi.
Permanence.
Mais il y a aussi l'élément plus important. Vous savez, on a rencontré le Premier ministre avant-hier soir. Au Premier ministre, on n'a pas donné de revendication catégorielle. On a parlé de la justice pénale. Nous, on a expliqué que par rapport à l'auteur d'un délit, ce qu'on souhaitait, c'est que lorsque la personne est reconnue coupable de ce délit, que la peine soit prononcée, mais qu'elle soit exécutée rapidement. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison, c'est gradué en fonction des délits. Mais ce qu'il faut, c'est une immédiateté de la peine. Alors évidemment, ça passe aussi par des moyens donnés à la justice. On a une justice qui manque de moyens. Mais si on ne passe pas par là, si on ne fait pas ça, ça donnera de très mauvais signaux. Moi, je connais.
Rassurez-vous, monsieur Contento, dans la seconde partie qui va démarrer dans quelques minutes, on reviendra, je vous promets, sur ces mesures. Et en fin d'émission, on dira si ces mesures suffiront à mieux protéger les policiers et quelles sont les solutions possibles. Mais je voudrais vous demander, monsieur Gassama, très rapidement, est-ce qu'il y a un lien entre la montée de ce qu'on appelait les violences policières de ces dernières années et les attaques dont les policiers eux-mêmes sont victimes aujourd'hui?
On l'a rappelé récemment. Effectivement, la délinquance, elle a existé, mais c'est vrai que la violence est beaucoup plus forte. C'est ça qu'on mesure quotidiennement. C'est une violence qui est vraiment, qui s'exprime de façon beaucoup, beaucoup plus intense vis-à-vis de tous les corps autoritaires de l'État, c'est-à-dire effectivement les policiers, les pompiers, on l'a rappelé, les élus. J'ai été un élu.
On l'a dit tout à l'heure, mais je demandais, est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'il y a aussi ces dernières années des accusations de violence policière, parfois même de racisme. On a le sentiment aujourd'hui que c'est comme si, dans certains cas, les gens étaient un peu du coup sur coup. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux éléments?
Non, le problème, c'est qu'il y a des forces dans la société, et même des forces politiques, des forces dans la société civile, qui effectivement jettent l'opprobre sur la police. Et on le voit par exemple dans les manifestations, différentes manifestations. Pourquoi ça se termine mal? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour en découdre avec la police. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal de faire, justement, de jeter cette opprobre sur la police, parce que, on va le répéter à maintes reprises, la police est là pour veiller à la quiétude et à la tranquillité publique. C'est son rôle, et c'est de veiller à ce que chaque citoyen puisse se mouvoir tranquillement et en sécurité dans l'espace public et, je dirais même, dans son espace privé.
Donc, on l'a d'ailleurs vu aussi, même le 1er mai dernier, où il y a eu des violences, même contre les syndicats.
Et ça s'attaque effectivement même aux syndicats. Donc c'est-à-dire que ceux qui dénoncent effectivement des supposées violences policières sont d'une certaine manière aussi les agents de ces gens qui jettent l'opprobre sur la police. Et il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela parce que il en va de la cohésion de notre société. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça.
Allez-y, terminez jeu en 30 secondes.
Oui. Et la police, on le voit quand il y a des manifestations pacifiques, ça se passe très très bien. Et ils sont là pour sécuriser, pour faire respecter le droit de manifester. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux dans notre société. Et si il y a un délitement de ce côté-là, on aura tout perdu.
Merci beaucoup, monsieur Gassama. Et on va revenir dans quelques seconde pour parler de la réponse donnée à ces violences contre les policiers par le gouvernement qui a annoncé lundi quelques mesures. À tout de suite.
Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment mettre un terme aux multiples attaques et actes de violence contre des policiers en France? Nous en débattons ce soir avec Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne FR Tous Uniques, Tous Unis, et Mohamed Gassama, référent LRM, La République en Marche du 20e arrondissement de Paris, et Rocco Contento, porte-parole du syndicat SGP Police en Ile-de-France, à qui je donne la parole. Monsieur Contento, le Premier ministre a donc rencontré en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur, les syndicats de police. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures ont été annoncées. Il s'agit notamment du renforcement des peines contre des personnes qui s'attaquent aux forces de l'ordre. On a aussi parlé de limiter strictement les possibilités de réduction des peines pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre, ou encore la création d'un délit spécifique qui les réprimera plus durement. Ces décisions ont été accueillies de façon mitigée par des syndicats de police et avec beaucoup de prudence d'ailleurs par les syndicats de magistrats qui, de leur côté, affirment que les peines contre les auteurs d'attaques des policiers sont déjà assez dur et à simplement même parler de poudre aux yeux.
Alors, déjà, on était présents lors de l'audience avec le Premier ministre et le garde des Sceaux, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Bon, on n'est pas ressorti complètement satisfait de cette audience, même s'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par rapport à ce que disent les magistrats, je vais vous livrer une chose. Quand les magistrats nous disent que 93% des peines, effectivement, sont effectuées, dans ces 93% de peines, vous avez quoi? Vous avez 50% de rappel à la loi. Ça, je tiens à le préciser. Donc, il faut vraiment cibler. Moi, je parle de délits importants. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. On en revient toujours là. Ce qui est important, c'est lorsqu'une personne est reconnue coupable et qu'elle est condamnée, la peine, elle s'applique tout de suite. Je vais prendre un parallèle. Lorsqu'un enfant de 5 ans fait une bêtise, vous ne le mettez pas au point le lendemain. Vous le mettez au point tout de suite. Donc voilà, à partir de là, il y a des lois qui existent déjà. Il faut juste les faire appliquer. C'est pour ça, par exemple, sur les guet-apens. Je vous rappelle que là, les policiers sont victimes quotidiennement de guet-apens. Il n'y a pas un jour où on n'est pas victime de guet-apens. Certains sont médiatisés, d'autres passent sous les écrans radars. Mais le guet-apens, c'est criminel. Et j'ai jamais vu encore dans ma carrière une personne qui a tendu un guet-apens à des policiers aller en prison. Donc le garde des Sceaux s'est engagé à refaire une circulaire à tous les parquets. Voilà. Déjà, appliquer la loi. Il y a aussi une chose que nous voulions, on n'a pas été entendu là-dessus, c'est que lorsqu'on agresse un policier, qu'on est reconnu comme tel, qu'on agresse physiquement un policier, que la personne soit condamnée à une peine en dessous de laquelle on ne pourra pas aller. On peut appeler ça aussi une peine planchée. Ça, malheureusement, on n'a pas été entendu là-dessus. Néanmoins, ça va un peu dans le bon sens. Le président de la République lui-même, il y a quelques jours, a parlé pour la première fois d'une problématique dans la réponse pénale. Donc là-dessus, j'espère qu'au-delà des déclarations d'intention maintenant du garde des Sceaux et du Premier ministre, les choses vont se concrétiser dans des actes. Donc nous attendons, mais c'est important de faire cela et de donner vraiment des bons signaux pour éviter les récidives. Vous savez, c'est surtout sur les petites peines. Il y a beaucoup de personnes, de délinquants qui sont condamnés à des petites peines et qui ne les exécutent pas. Croyez-moi, quand vous êtes condamné à 3 mois de prison, vous allez 3 mois en prison, ça vous refroidit. Vous évitez la récidive à ce niveau-là. Mais malheureusement, vous savez tout comme moi que quand vous êtes condamné à de la prison, jusqu'à 2 ans de prison ou moins, vous avez ce qu'on appelle des peines alternatives. Alors évidemment, on ne met pas les gens en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. C'est aussi simple que ça.
Voilà, mais Monsieur Gassama s'est exprimé tout à l'heure. Monsieur Mbouyi? Allô, Monsieur Albin Mbouyi?
Je vais dans le même sens. Donc, oui. C'est vrai qu'il y a une volonté politique qui est pas notifiée. Maintenant, ce qui est toujours étonnant, et ça, c'est quel que soit le pouvoir en place, c'est que devant une situation extrême, le politique, au lieu de s'assurer que l'arsenal législatif soit pleinement appliqué et exécuté, veut toujours rajouter des lois à son nom. Donc, il y aura sûrement des nouveaux dispositifs qui vont être mis en place, qui vont porter le nom de tel ou tel ministre ou de tel ou tel secrétaire d'État. Or, il faut vraiment déjà faire en sorte que ce qui existe soit appliqué.
Donc vous voulez dire qu'il fallait d'abord procéder à une évaluation des lois existantes qui répriment les attaques et violences contre les forces de l'ordre au lieu d'en créer de nouvelles ?
Mais tout a été dit par M. Contento. L'idée d'alourdir des peines ne sert à rien quand on voit que celles qui existent déjà ne sont pas prononcées, tout simplement. Donc aujourd'hui, effectivement.
Mais les magistrats s'en défendent, M. Bouilly.
Oui, mais on est dans une situation où le chien se mord la queue, effectivement, parce que vous avez un certain nombre de magistrats.
Parce qu'ils affirment que la loi est déjà très dure et sévère à l'égard des personnes qui s'en prennent à des policiers.
Comme ça a été dit par M. Contento, vous prenez 6 mois de prison, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'exécution de peine par rapport à l'arsenal législatif qui est mis en place, qui pourrait faire office de dissuasion. Aujourd'hui, la justice utilise souvent comme dissuasion le rappel à la loi. Mais voilà, c'est exactement comme l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Vous avez votre enfant qui fait une bêtise, vous le mettez pas au coin le lendemain en lui disant attention. Vous le mettez au coin tout de suite et c'est plus efficace qu'une parole par moment. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez plusieurs organismes qui s'entrechoquent parce que vous avez le corps de la police et de la gendarmerie qui, eux, sont sur le terrain. Vous avez le corps judiciaire avec les magistrats ou autres qui, eux, prêchent pour leur paroisse parce que quelque part...
Et qui se plaignent aussi des problèmes d'effectivité. Tout comme les policiers.
Mais bien entendu, mais pour les magistrats reconnaître que les peines ne sont pas appliquées, ne sont pas exécutées, ça serait équivalent à reconnaître que le travail n'est pas bien fait de leur côté. Or, c'est pas ça que l'on dit. Nous, ce qu'on a besoin.
Mais en procédant, en avançant de tels arguments, Monsieur Mbouilly, est-ce qu'on n'est pas en train d'empiéter sur l'indépendance de la justice et puis aussi la présomption d'innocence des prévenus? Parce que ce que vous semblez dire, c'est que il faut que dès qu'il y a des actes contre les policiers, on doit même prononcer la sentence avant même d'avoir entendu le prévenu. Est-ce que cela ne ressemble pas à cela un peu?
Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un modus operandi qui amène à une condamnation, qui amène à l'établissement d'une peine. Mais la problématique, c'est que les peines, soit elles ne sont pas assez lourdes, soit elles ne sont pas appliquées à la mesure de l'acte qui a été commis. Et souvent, on parle d'actes criminels. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'un policier soit tué, qu'un policier soit enfermé dans sa voiture avec des cocktails Molotov, qu'on le brûle, et que lorsque cet agent...
J'imagine
que
vous faites allusion à l'affaire Viry-Châtillon, où le verdict, où la sentence a fait l'objet de débats vifs au niveau de la police.
Mais bien sûr, jusqu'à des bagarres au sein du tribunal, et vous avez cette policière qui sort, qui dit « Au secours, j'ai des enfants », et la réponse de ces jeunes, c'est de caillasser de plus belle la policière. Vous savez, nous, on organise souvent des rencontres police jeunesse, où on parle de toutes ces discussions-là. Et M. Contento, on a organisé une la semaine dernière avec M. Abdoulaye Kanté, que vous connaissez très certainement. On voit que les jeunes parlent, on voit que aussi vous avez certains jeunes qui reconnaissent des choses. Et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une responsabilité commune.
Merci.
Il faut créer des cadres où aussi le jeune a besoin de voir, je dirais, le côté humain de l'agent, pour pouvoir échanger, pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir avoir des conditions de prévention plus adéquates.
Monsieur Gassama, cette réponse pénale telle que le gouvernement l'a fait, est-ce que c'est le bon moment? J'ai parlé tout à l'heure de l'affaire Viry-Châtillon. Il y a eu le meurtre en 2 semaines de deux agents, de l'agent de police, de l'agent administrative et le policier, Monsieur Masson. Il y a aussi cette lettre de généraux à la retraite, une autre des militaires anonymes. Est-ce que le contexte politique est suffisamment serein et favorable pour discuter de cette question importante de la protection de policiers et de prendre des mesures qui devraient être fortes pour arriver à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une meilleure protection de ceux-ci?
La loi sécurité globale, elle est justement faite pour ça. Justement, on a beaucoup entendu des politiques venant surtout de la gauche critiquer notamment cet article 24 qui était là pour vraiment apporter une réponse législative à la sécurité des policiers. Et c'est ça aussi qui est insidieux dans le discours de certains qui, une fois, vous disent « Ah oui, mais les policiers, on les soutient, mais à côté, ils vont appeler à manifester pour justement dénoncer, entre guillemets, des articles qui sont en discussion à l'Assemblée nationale pour justement protéger nos policiers. » Et c'est ça, ce discours ambivalent que moi, avec certains, on dénonce. À un moment donné, il faut être clair. C'est soit on donne les moyens, et là, le gouvernement, je pense, a entendu, et depuis un certain nombre de temps, donne des réponses, justement, pour que les policiers soient en situation de sécurité quand ils sont en opération, ou en tout cas, que la loi les protège. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes.
Mais monsieur Gassama, je comprends, on a un an de la présidentielle, je peux comprendre que, voilà, vous attaquez la gauche qui s'est illustrée contre cette loi, mais je voudrais vous demander, est-ce que le contexte actuel, avec tous les éléments que j'ai mis dans ma question, est-ce que c'est le bon moment de statuer de manière apaisée sur cette question de la protection des forces de l'ordre ?
Ça veut dire qu'on n'en discute pas.
Parce qu'on a l'impression que c'était le gouvernement a pris des mesures dans l'urgence.
Il n'y a pas de mesures dans l'urgence. Il y a des réponses qui sont données à une situation. Si on n'y répond pas, on va nous dire que le gouvernement est laxiste ou ne fait rien. C'est pas, je pense, la nature de ce gouvernement, ou en tout cas la nature du président. Ce que je veux dire, c'est que ce que M. Dupont et Moretti et M. Darmanin sont en train de faire, c'est justement de travailler sur cette chaîne pénale. Et c'est quelque chose qui est primordial pour effectivement donner, comme l'a dit M. Contecto tout à l'heure, une réponse à un acte de violence ou un acte délictuel. C'est ça la question. La question, c'est voilà, de répondre rapidement à des faits qui sont répréhensibles. Et c'est tout le travail qui est en train d'être fait. On n'a pas pu, effectivement, à cause de la crise sanitaire, avancer dans le beau de la sécurité, mais voilà, le continuum de sécurité et le continuum pénal sont des éléments essentiels pour justement apporter une réponse concrète à toutes ces questions dont vous parlez.
Merci. Monsieur Contento, on a l'impression aussi que ces violences dont font l'objet des policiers et la réponse pénale qui s'en sont suivies de la part du gouvernement risquent peut-être finalement de créer une sorte de friction avec les magistrats avec lesquels vous devez pourtant travailler de concert pour pouvoir punir les auteurs de ces violences.
Vous savez, non, friction non. Après, vous avez la loi qui existe. Après, ce sont les magistrats qui apprécient lorsque les personnes comparaissent. Mais ce qui est important, bon...
Sauf que les décisions de magistrats sont très contestées. Quand, ces derniers temps, on parlait de l'affaire de Viry-Châtillon. Vous estimez que les magistrats ne vont pas assez loin. Eux, ils disent le contraire. Comment collaborer à l'avenir de manière sereine dans ces conditions?
Sur l'affaire du Viry-Châtillon, la problématique, c'est qu'en première instance, les réquisitions du procureur de la République, il avait demandé une peine de 20 à 30 ans de prison pour tout le monde. Il n'avait pas individualisé les peines par rapport à tous les individus qui étaient présents. C'est pour ça qu'on a assisté, en deuxième instance, à un certain nombre d'acquittements. À partir de là, il y a, nous, ce qu'on souhaite. Vous savez, la police est quand même le dernier rempart républicain qui existe. Hein. Elle est issue du peuple, au service du peuple, la police nationale. Donc là-dessus, il est quand même logique que l'État protège ses représentants. Moi, je vous rappelle que lors d'épisodes de Gilets jaunes qui ont viré à l'émeute, je pense normalement en décembre 2018, vous savez, la République, elle a tremblé. Hein. Et c'est la police et la gendarmerie qui ont permis à la République de rester debout. Donc c'est tout à fait naturel et normal que nos autorités tutelles, que le gouvernement, que le président de la République protègent sa police nationale. Tout simplement. À partir de là, on verra bien ce qui va se passer. Le 27 mai, nous avons une réunion pour le Beauvau de la sécurité qui reprend sur le thème de la justice, de la réponse pénale, et on espère bien que les choses vont avancer. Il était temps, parce que nous, ça fait des années qu'on le demande, et ce qui est important, c'est d'envoyer vraiment de bons signaux, et pas des signaux d'impunité pour des délinquants. Vous savez, moi, j'ai des collègues qui ont interpellé des délinquants, 14 faits à leur encontre, 14 faits, ils n'ont jamais été en prison. Mais vous imaginez le signal qu'on donne à ces délinquants-là, ils se croient en toute impunité.
D'accord, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dialogue de sourds entre vous et les magistrats ?
Ben nous, on ne dialogue pas avec les magistrats, je suis désolé. Là-dessus, nous, on met à disposition, on interpelle des personnes, on met à disposition, et ensuite, c'est l'affaire de la justice. Il n'y a pas de télescopage. Hein. C'est d'abord la strate policière, l'interpellation, le procès verbal d'interpellation. Ensuite, c'est au magistrat de jouer son rôle. Voilà, c'est une chaîne.
Merci beaucoup, Monsieur Contento. Et je vous propose de marquer encore une courte pause et on viendra à la fin de l'émission voir si les mesures annoncées vont effectivement faire réduire ces attaques contre les policiers et quelles autres mesures peut-être faudrait-il envisager pour des réponses plus efficaces. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des annonces faites par le gouvernement lundi pour mieux protéger les forces de sécurité. Seront-elles efficaces? Nous en débattons avec Mohamed Kassama, référent LRM du 20e arrondissement de Paris. Rocco Contento, porte-parole du syndicat SGP Police en Ile-de-France, et Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne FR, tous uniques, tous unis, et auteur de « Qu'est-ce qu'être français ?». Je reviens à vous, monsieur Gassama. Voilà, on a longuement parlé de ces mesures. Merci, Hugo Vallière. On a parlé de ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. On a également évoqué les limites de celles-ci. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que l'application de ces mesures va être faite dans de brefs délais et permettre d'une façon ou d'une autre, peut-être pas dans l'immédiat, d'améliorer la protection des policiers?
Surtout, quand on met des mesures en place, on sait que c'est pas immédiatement qu'on aura des résultats. Il faut évaluer, bien sûr, les politiques publiques. Et à moyen à long terme, on verra ce que ça donne comme résultat et probant ou bien sûr il faut réajuster. C'est comme tout, c'est comme tout. Quand vous mettez quelque chose en place, vous voyez comment il est déroulé par les acteurs qui s'en saisissent. Donc ça c'est quelque chose qui est normal et donc mais ce que je veux dire c'est que surtout il y a une réponse. Il y a une réponse de la part du gouvernement. On oublie souvent quelque chose, et de le rappeler, il y a cette ordonnance 45 qui est maintenant obsolète. Et c'est je pense, un point important qu'il faut rappeler à nos auditeurs, qui est remplacé par le Code pénal des mineurs, qui change quand même pas mal de choses en termes d'approche de la justice des mineurs. Et donc, ça va, vous pouvez par exemple, avant... Il fallait 18 mois pour juger un mineur quand il commettait un acte délictuel répréhensible. Là, maintenant, c'est 3 mois. Vous allez dire que c'est toujours 3 mois, mais c'est quand même, on passe de 18 à 3 mois. Donc, c'est quand même des réponses qui sont assez concrètes pour qu'on puisse donner aux magistrats, parce que c'est les magistrats qui jugent un acte. Effectivement, les policiers, eux, amènent l'enquête. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir noter.
Merci. Monsieur Contento, dans quel délai espérez-vous, au niveau de la police, voir les effets de ces mesures? Et comment allez-vous évaluer son efficacité ou leur efficacité?
Écoutez, vous savez, on parle de ces mesures-là, mais c'est un tout, c'est un ensemble de choses. Pour restaurer l'autorité de l'État, ça ne passe pas que par l'institution police nationale, ni la gendarmerie. C'est vrai que c'est un très bon élément, effectivement, si les déclarations d'intention du garde des Sceaux, du président de la République, du Premier ministre, se concrétisent en actes, ça sera bien. Mais au-delà de ça, l'éducation nationale a un rôle à jouer, les parents ont un rôle à jouer, c'est important aussi. Et concernant les mineurs, il est vrai qu'il y a un intervenant qui a dit une chose qui est très juste, c'est qu'il y a un manque flagrant de structure pour les mineurs.
De prévention ?
De prévention pour les mineurs qui se retrouvent complètement disqualifiés scolairement, qui se retrouvent complètement disqualifiés.
Donc vous pensez qu'au-delà de ces mesures, il faudrait renforcer ces structures associatives?
Oui, tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui se plaignent, vous avez raison, moi j'en connais certaines, qui manquent de moyens. Et quand vous avez des mineurs disqualifiés familialement et disqualifiés scolairement, ils se retrouvent happés par la rue, souvent, happés par les trafiquants de drogue, qui les utilisent pour faire des guetteurs, notamment. Et voilà, c'est une spirale infernale qui commence à se mettre en marche, parce que ces jeunes mineurs commencent par être guetteurs. Ensuite,
ensuite, ils vont dealer du cannabis, et ensuite, peut-être qu'ils vont monter au braquage, et puis ils vont finir peut-être un jour, je ne le souhaite pas évidemment, par tirer sur les policiers. Voilà, non, il faut stopper en amont cet engrenage infernal.
Monsieur Contento, je me dois aussi de relayer ces autres avis qui peut-être ne vont pas vous plaire, mais certains pensent qu'il y a un corporatisme excessif de la part de policiers, sans doute compréhensible peut-être avec tout ce qui se passe, qui risque d'empêcher finalement le gouvernement d'entreprendre les réformes ou les réponses prévues pour répondre aussi aux violences dont on accuse les forces de sécurité.
Moi, je récuse du corporatisme. Je ne sais pas ce que vous entendez par corporatisme, mais c'est vrai que la police nationale, c'est une grande famille. Et on est tous solidaires les uns des autres. Vous avez pu voir notamment toutes les motions sur tout le territoire national par rapport à l'assassinat de notre collègue. Après, moi, je réfute l'idée de racisme systémique dans la police nationale, comme certains accréditent la thèse. Je réfute l'idée de violence policière générale. Il y a des brebis galeuses dans la police nationale. On n'est pas dans le déni. Il y en a. C'est vrai, mais on ne peut pas parler de racisme systémique. S'il y avait un racisme systémique dans la police nationale, vous croyez que des centaines de policiers issus des minorités maghrébines, africaines, rentreraient chez nous? Non, et pourtant c'est vraiment le cas. Donc voilà, il faut vraiment remettre les choses, l'église au milieu du village, et ne pas dire que voilà, c'est trop facile. Hein. Vous savez, les gens qui disent ça, c'est les gens déjà qui ont un souci avec l'autorité de l'État et la police nationale. Ça, on ne pourra rien y faire. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. On pourra faire le plus grand nombre.
Mais les affaires Ziegler ou encore Traoré, c'est aussi des réalités, vous l'admettez?
Oui, Traoré, un bémol. Parce que moi, je vais vous dire, sur l'affaire, pour l'instant, Traoré, on constate une chose, c'est qu'il y a eu les gendarmes qui ont été mis en examen. Pour l'instant, l'affaire suit son cours. Il y a des expertises qui ont été données. Et voilà, donc on n'est pas du tout comme l'affaire George Floyd aux États-Unis. Hein.
Merci.
Ça suit son cours. Et mes collègues, pour l'instant, sont présumés innocents. Hein. Ils ne sont pas condamnés.
Absolument. On est d'accord. Ouais. Elle fait l'objet d'ailleurs de poursuites aussi. Monsieur Mboyi, alors, vous dites que dans l'ensemble, on attend de voir ce que l'application de ces mesures va donner. C'est en tout cas ce qu'estiment messieurs Gassama et Contento. Vous, s'il y avait des mesures supplémentaires à ajouter à celles annoncées par le gouvernement pour vraiment mieux protéger et s'assurer de ce que les policiers le seront davantage, ce serait quoi?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà un arsenal législatif qui, en théorie, est assez complet. Comme je l'ai dit aussi, moi je suis pour un retour de la remise en place des peines planchers. Il faut que la personne qui s'engage sur une voie criminelle puisse avoir l'assurance de faire un séjour minimum en prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant, le délinquant pouvait dire « j'ai peur d'aller en prison », mais aujourd'hui, certains délinquants disent « je sais que je n'irai pas en prison ». Le discours est en train d'évoluer. Et je suis sur le terrain très souvent, avec des jeunes qui parlent de façon très ouverte par moment, et vous avez certains discours qui vraiment vous font peur, et surtout certains discours de personnes très, 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 très jeunes. Il y a une précocité. Le retour des peines planchers, et surtout, il n'y a pas de formule magique, c'est un effort commun. Ça commence à la maison, les parents, la restauration de l'autorité de l'État. Il n'y a pas que le politique, il n'y a pas que les policiers, il n'y a pas que
le... Mais sur le renforcement des structures sociales dont M. Contento parlait, ça peut être aussi une piste, une autre solution à associer à celle existante.
Mais bien entendu, c'est même une piste essentielle, parce que ceux qui travaillent sur le terrain, les associations, les médiateurs auprès de cette jeunesse ont besoin d'être renforcés, ont besoin d'être valorisés aussi. Ont besoin d'être valorisés et ont besoin d'être quelque part un prolongement de l'État vis-à-vis de cette jeunesse. Parce que les jeunes aussi, des fois, ils vont avoir plus de facilité face à une détresse sociale, face à un sentiment d'abandon, qu'il soit justifié ou pas, c'est pas le sujet. Mais à s'ouvrir à un médiateur, à être enclin à prendre des conseils ou autres, et on le voit sur le terrain, comme je disais tout à l'heure.
Le réconcilier avec les forces de l'ordre.
Tout à fait. On organise beaucoup de réunions, de rencontres police-jeunesse, et il faut voir ce que les jeunes nous disent, et même des jeunes coupables qui peuvent reconnaître avoir déjà caillassé des policiers.
Merci.
Mais le fait d'échanger avec des policiers et de voir la face humaine
de
l'État arrange les choses.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, Abel Mboyi, président de la plateforme citoyenne Tous Uniques, Tous Unis. Merci à Mohamed Gassama, référent LRM du 20e arrondissement, et à M. Rocco Contento, porte-parole du syndicat SGP en Île-de-France, SGP Police évidemment. Bonsoir et merci d'avoir suivi.